Laurent Duruy tournait au 104, un lieu de hip-hop. Je crois que vous aviez un rendez-vous qui tournait un petit peu aussi autour du hip-hop.
Effectivement, j'avais un rendez-vous avec un jeune danseur qui vient du Tchad, qui est camerounais, qui m'intéresse beaucoup parce qu'il a une trajectoire un peu particulière. Il a dansé le hip-hop depuis une quinzaine d'années et depuis 5 ans, il l'intègre dans une démarche d'appropriation des danses tchadiennes. Et donc, il fait se rencontrer un peu ces deux danses traditionnelles finalement africaines ou post-africaine, on pourrait dire, pour le hip-hop, dans une pratique qui relève vraiment d'une démarche de danse contemporaine, c'est-à-dire dans l'abstraction, intégrant quand même une certaine relation au monde, intégrant même quelquefois la narration, dans une démarche de dépassement des frontières. Et justement, dans cette optique-là que je le rencontre, c'est dans l'idée de traiter une thématique qui m'interpelle en ce moment particulièrement, et notamment au vu des événements politiques actuels, qui est la question des migrants et des flux migratoires. Ce sont des questions importantes.
Vous aviez travaillé aussi avec un plasticien, Théo Mercier, je vous avais vu en décembre dernier, du futur, faisons table rase. Mais comment vous êtes inscrit dans cet univers-là? En plus, Théo Mercier, c'est un peu une des nouvelles stars de la scène artistique française.
Tout simplement, je suis arrivé à travailler sur ce projet parce que Théo était pensionnaire avec moi à la Villa Médicis. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, de découvrir son univers très particulier qui est très postmoderne avec de multiples références à l'iconographie que l'on trouve sur Internet et que l'on trouve dans notre environnement urbain aujourd'hui. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. En ce moment, il est au Mexique à la recherche d'inspiration. Il s'intéresse beaucoup à la question du masque. Il s'intéresse beaucoup au rapport aux pratiques traditionnelles de la sculpture et du masque. Donc il y avait ce projet-là qui a d'abord été créé à la MAC de Créteil, donc c'était en avril ou en mars 2014. En fait, il devait construire un spectacle musical en partenariat avec le groupe Sexy Sushi. Il s'est avéré que dans les derniers mois, voire semaines de préparation du spectacle, il s'est rendu compte qu'il manquait toute une partie importante de son projet, qui était toute la dimension sonore, puisqu'en fait il avait conçu ce spectacle selon une série de tableaux, chaque tableau correspondant à une période temporelle, disons, le passé, le futur, le présent et l'éternité. Tout ça plus ou moins en rapport avec son séjour à Rome. La question du présent était occupée par les Sexy Sushi et il n'y avait absolument personne pour tout le reste du spectacle. Donc quand il s'en est rendu compte, il est venu me voir à la villa pour me demander de travailler avec lui. Donc j'ai beaucoup aimé travailler dans son univers. Là où il y a un pont entre le sien et le mien, c'est sur cette question, je dirais, de la prise de distance, du regard qu'on peut avoir sur soi-même et de la manière dont on peut soi-même se moquer de ses propres réflexes et de ses propres tics artistiques, disons. Il joue beaucoup avec ça.
La scène qui finissait, c'était avec une sculpture humaine, très néoclassique.
Oui, oui, oui. En fait, terminé avec, après cette moquée du futur qui s'annonce ouvertement fasciste, puis le passé tout en macabre avec une énonciation de guerre et de mort à n'en plus finir, en se délectant d'une assiette de fromage. En passant donc par un présent plutôt pathétique, puisqu'en fait les Sexy Sushi, et ça c'était assez intelligent de la part de Théo, les Sexy Sushi en fait jouaient un concert comme si on était plongé au milieu d'un de leurs concerts, mais avec tout ce qu'il peut y avoir de pathétique dans un concert aujourd'hui de rock et de techno, c'est-à-dire avec tout le côté bière, drogue, fétichisme. Toute l'ambiguïté était que la communication sur le spectacle était beaucoup faite sur Sexy Sushi. Du coup, on avait tout un certain nombre de fans, de jeunes fans des Sexy Sushi qui venaient au concert en s'attendant à un vrai concert et qui étaient complètement paniqués parce qu'ils comprenaient pas ce qui leur arrivait vu qu'il y avait commencé par du théâtre. Voilà. Et au final, ils avaient une grande frustration qui naissait. Puis les Sexy Sushi arrivait et à ce moment-là il montait sur le plateau, alors il y avait un faux videur qui les foutait dehors, enfin vraiment, je me souviendrai toujours de la première, on aurait cru une manif, ça n'avançait plus, on savait plus comment sortir de l'épisode Sexy Sushi, et donc la manière dont on a terminé le spectacle, qui était très intéressant, même d'un point de vue artistique, c'était le travail avec le danseur François Chéniaud, qui est vraiment un artiste absolument incroyable, quelqu'un qui a une technique de danse époustouflante et en plus quelqu'un qui a vraiment une démarche intellectuelle très poussée sur sa pratique et sur les arts en général. Ce danseur François incarnait ou réincarnait en fait un certain nombre de figures mythologiques que l'on trouve statufiées aux quatre coins de Rome. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à Rome, c'est l'intégration de la sculpture au milieu de la ville et la manière dont les Romains et la ville dialoguent perpétuellement avec son passé au travers de cette mythologie des statues qu'on trouve absolument partout. Donc c'était cette évocation-là qui terminait le spectacle avec une figure de l'éternité, c'est-à-dire que François prenait une position en référence à une des statues les plus célèbres à Rome, et dans une temporalité très très longue avec, moi j'ai mis des sons très très tenus, parce qu'on savait très bien que ça allait finir, ça allait dégénérer le concert avec Sexy Sushi, du coup on s'était dit faut que les gens reviennent au calme, et comment faire? Alors j'ai utilisé justement, alors ça c'est un lien avec mon prochain spectacle à la fin du mois qui traite du son comme arme, j'ai utilisé un son à 8000 Hertz très fort que les polices utilisent. Il y a eu aux États-Unis et en Angleterre cette utilisation-là d'un son très strident qui fait fuir les jeunes et pas les plus âgés, puisqu'en fait tout simplement ils ne l'entendent plus. C'est des sons qui sont plus autour de 15000 Hertz, là pour le coup moi j'ai utilisé 8000 Hertz pour être sûr que tout le monde l'entende bien, pour que tout le monde revienne s'asseoir à sa place et qu'on puisse terminer le spectacle.
Et il y avait personne.
Il y avait cet air qui traite de l'éternité, que d'ailleurs François chantait de manière admirable, perché à 3 mètres du sol sur un pied, faisant sa quatrième pose de statue. C'était un moment assez beau, je trouve. Je pense que c'était le clou du spectacle un petit peu.
À la fin de la deuxième partie, avec le groupe de rock, il y avait cette scène de cruauté où il y avait le public des amateurs qui brutalement leur fermaient la porte. Il y avait quelque chose de cet ordre, de cette cruauté, quand on regardait le spectacle en disant en gros, vous n'avez rien compris à ce qui se passe.
Oui, mais il y avait ce côté très curieux, c'est que Théo Mercier, comme beaucoup de gens dans les arts plastiques, comme beaucoup de jeunes artistes, en fait, il baigne totalement dans cette culture de la techno et de la musique électronique. Donc il y a cette ambiguïté où lui-même, c'est un fan des Sexy Sushi. Il a d'ailleurs signé des couvertures de leurs albums. Alors donc il les invite, en même temps, il se moque de lui-même et du public des Sexy Sushi en leur disant, oui, vous aimez cette musique, mais essayez de sortir un peu de ça et de vous éveiller au monde. Parce qu'il n'y a pas que les Sexy Sushi dans la vie, il y a aussi Purcell, il y a aussi du clavecin, il y a plein de choses à écouter. C'était un peu ça aussi son spectacle, tout sur la dérision.
Et donc de cette expérience de la Villa Médicis, c'était une manière de la clôturer, de trouver une sortie?
Il y a eu de nombreuses sorties de la Villa Médicis, oui, oui. Cette expérience-là, oui, c'était une manière de reprendre contact avec le monde réel, si je puis dire, bien qu'on était dans le monde du théâtre avec Théo. C'est le spectacle qui m'a le plus ramené à la réalité. Finalement, en ce moment, j'ai beaucoup d'expérience avec le plasticien Hicham Berada, qui était un peu l'autre plasticien phare à la Villa quand j'y étais. Hicham, qui est dans un tout autre registre, questionne le spectacle et les arts vivants au travers de sa démarche de plasticien. Mais c'est une parmi d'autres. Là, je viens de réaliser le son pour une vidéo de Malik Nejmi, qui était aussi avec moi à la Villa. Enfin, en fait, j'ai fait énormément. C'était ça qui était très fort à la Villa, c'est que j'ai fait une dizaine de collaborations avec tous les artistes. C'est vraiment un lieu qui s'y prête particulièrement.
Souvent, les gens de la musique contemporaine vivent dans leur monde, dans leur cocon, dans leur univers, et les autres aussi, bien sûr. Mais souvent, les plasticiens me semblent plus en avance dans la manière de concevoir l'espace, le lieu, la représentation. On reste encore, nous, très très marqués par des modèles très anciens, on a du mal à s'en défaire. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de révolution, et que depuis une dizaine d'années, là, je sens que les compositeurs commencent à avoir vraiment pris le parti de cette rencontre.
Bah, je crois que ça tient aussi à l'évolution de notre vocabulaire, je pense. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une période où je crois que les jeunes compositeurs intègrent plus facilement des matériaux hétérogènes. Et voire même, ils cherchent spécialement à le faire. À la fois pour re-questionner les acquis des générations précédentes, qui sont des acquis très forts et très respectés, mais dont on voit quelquefois aussi les limites. D'un point de vue expressif quelquefois, ou d'un point de vue simplement dramatique même. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus composer comme on composait il y a 10 ou 20 ans. Et l'une des, je trouve, des tendances très fortes aujourd'hui est justement d'aller intégrer les pratiques extérieures. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on trouve un terrain d'entente avec les plasticiens qui eux-mêmes sont habitués à détourner les règles et à casser les cadres qu'on leur propose au musée ou dans les galeries.
Et donc vous n'avez pas trouvé de romancier qui vous a intéressé?
Si, j'avais la chance d'être avec, il y avait quatre romancières en même temps que moi, notamment Yakuta Alikavazovic, qui est une jeune femme avec beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup de talent. Et on a un projet de conte musical pour enfants qui s'appelle Moquette Monstre, aussi sur l'idée du désenchantement du monde contemporain, de l'investissement éperdu dans la technologie et dans l'industrie, au risque d'y perdre son âme. Bon. Mais ça, c'est encore dans le futur, pour le coup. Donc, ne faisons pas table rase de ce futur-là, pour l'instant.
Donc, il y avait quatre femmes, donc ça faisait un petit peu l'équilibre par rapport aux hommes compositeurs.
Oui, alors, effectivement, il n'y avait pas de femmes compositrices en même temps que moi. Et il se trouve que quand même, ma promo, donc, enfin, moi, j'ai fait 18 mois, donc j'étais à cheval sur deux promos. Dans notre promo, on était autant d'hommes que de femmes. Et j'étais le seul compositeur, donc il fallait bien que ce soit l'un, soit l'autre. Et après, oui, il y a deux compositeurs qui m'ont rejoint, Nicolas Schex et Sébastien Rivas. Donc effectivement, oui, on était trois hommes, quatre écrivaines, c'était équilibré. Et je crois, et Sébastien est plus rentré en phase avec une des écrivaines, Géraldine Koziak, avec qui il a fait beaucoup de collaborations pour le coup.
Donc une bonne affaire tout ça, ce monde se change un petit peu.
Complètement, ça revitalise, on revoit complètement sa manière de travailler, d'autant plus qu'on sort aussi de sa bulle, parce que curieusement la Villa Médicis c'est une bulle, ça tout le monde le sait, on est isolé, c'est une espèce de forteresse dorée. Mais en même temps, le monde dans lequel on vit à Paris est aussi une bulle dans le sens où on gravite dans notre milieu de la musique contemporaine, qui est un petit milieu où tout le monde se connaît. Et là, quand on se retrouve à la Villa Médicis, où comme moi, j'étais le seul compositeur, et donc on va à la rencontre des artistes qui sont dans la maison d'à côté, on se rend compte que la musique contemporaine, pour ces gens, c'est vraiment quelque chose d'aussi exotique que faire un safari au Cameroun. Comme on est là avec eux, on est bien obligé quand même d'arriver à se comprendre et de faire quelque chose. Du coup, on sort aussi de cette habitude qu'on a où tout le monde parle le même langage, et non, là, personne le même langage, et donc ça chamboule un peu les habitudes, c'est tout à fait ça fait beaucoup de bien.
On se rencontre comment dans la Villa Médicis, en faisant des soirées, des surboues, quoi, comment on fait?
Oui, on mange ensemble beaucoup. Éric de Chassé, l'actuel directeur, qui essaye vraiment de créer une connivence entre les pensionnaires, organise un certain nombre de dîners, il invite beaucoup d'artistes auxquels participent, à des conférences auxquelles participent ou des séminaires auxquels participent les pensionnaires. Enfin, tout est fait pour que l'on se rencontre. Ça se fait, en tout cas, de mon expérience, lors de ma résidence, ça s'est fait vraiment très naturellement. Je crois que c'est pas toujours le cas. Mais nous, ça s'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, ça continue. On est tous rentrés et on continue à se voir régulièrement. Donc, c'est plutôt agréable.
Et alors, il y a de la musique contemporaine, il y a des milieux alternatifs, il y a des artistes, il y a quoi?
Alors, Rome, c'est une ville très particulière. C'est un peu un agrégat de plusieurs quartiers, très très contrasté. J'ai pu rencontrer un certain nombre de musiciens sur place, dont Oscar Pizzo, qui travaille au Parco della Musica, et de jeunes percussionnistes très très dynamiques, dont Flavio Tanzi. Ce groupe qui s'appelle Blow Up Percussion, on jouait ma musique en fait à Rome et dans les environs de Rome plusieurs fois. Effectivement, j'ai pu intégrer comme ça un petit groupe de jeunes artistes. Alors surtout des musiciens, j'ai pas tellement rencontré finalement des artistes plasticiens ou écrivains, si Pippo Del Bono quand même, mais bon voilà, c'était un peu les soirées people, j'ai envie de dire, de la villa. C'est pas vraiment une ambiance de travail dans le long terme.
Et en plus, vous, faut pas oublier que vous êtes quand même un interprète, et votre frère est percussionniste, et vous-même vous êtes pianiste, vous avez fait un duo, Lynx.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ben, on a d'ailleurs joué à la villa lors d'une de ces rencontres pensées par Éric de Chassé, qui s'appelle Teatro delle Esposizioni, dans lequel chaque pensionnaire est tenu, en tout cas on lui propose de présenter son travail en cours. Et j'avais choisi de travailler avec mon frère et deux artistes italiens, puisque la thématique de cette manifestation était justement la rencontre avec la ville, avec Rome, la ville et ses artistes. Et donc j'avais pensé une performance qui a été jouée dans les grands salons de la villa, qui s'appelait Studi sulla Notte, pour piano, percussion, clarinette et plasticien.